Donc, un aveugle né. De ce long chapitre, il y aurait beaucoup à en dire. Mais comme je suis un être bavard, je vais quand même essayer de me limiter. J'ai fait traduire dans le texte que Martin a lu le mot aveugle né par malvoyant né. Et vous comprendrez pourquoi. Mais Jean ne place pas ce récit n'importe où. Il le place à la suite du chapitre 8 où pour la première fois, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Ainsi, le texte de la guérison est placé dans le chapitre 9 pour illustrer cette parole forte de Jésus qui est répétée encore au début « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et le miracle va agir alors pour eux, pour les disciples, et donc pour nous aussi aujourd'hui, comme un déclic. Parce que si on isole le récit de cette guérison du chapitre 8 et du chapitre 9 sans les lire en entier, on court le risque que ce signe, puisque Jean n'utilise jamais le mot miracle, que ce signe devienne nocif pour nous, parce qu'il provoque un gros malentendu sur la personne de Jésus. Malentendu d'ailleurs que Jean va à de nombreuses reprises essayer de faire disparaître, sans beaucoup de succès d'ailleurs. Et Jésus en est conscient. L'évangile de Jean le confirme au moins à deux reprises, Jean 2, Jean 6, etc., où il dit « Si vous ne voyez que des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais ?» Et puis, au risque de vous surprendre, j'espère ne pas vous choquer, la vraie foi est celle qui se passe de signes. La vraie foi, c'est ce que Jésus dira plus tard, après la résurrection, à propos de Thomas, qui veut toucher la plaie. Et voilà ce que dit Jésus, qu'il ne nous faut jamais oublier. « Parce que tu m'as vu, tu as cru, » dit-il à Thomas. « Mais heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais cette parole, elle est pour nous. Parce que nous n'avons pas vu les trois crucifiés sur le Golgotha. Nous n'avons pas vu le tombeau vide. Nous n'avons pas vu Jésus marcher sur les terres de Palestine. Et nous sommes ici maintenant, donc heureux. Heureux d'avoir cru sans avoir vu. Et pourtant, nous pourrions être nous aussi des malvoyants de naissance, comme l'homme de ce récit. Car le grand, le seul, le vrai signe a eu lieu, je cite toujours l'apôtre Jean. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis plus loin, il poursuit en disant sur la croix où le Fils a été glorifié, c'est-à-dire où il a été montré aux yeux de tous, rendu aux yeux des hommes en sa qualité d'envoyé du Père, venu donner la vie éternelle au monde. Ce jour-là, à l'image du serpent d'airain sur le bâton d'Aaron, ceux qui regardent et qui reconnaissent dans le sacrifice de Jésus sur la croix sont guéris de leur cécité spirituelle. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Et si la gloire de Dieu a été révélée en lui, poursuit Jean, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il le révélera très bientôt. Chers frères et sœurs, la majesté, la gloire de Dieu, au sens où nous le pensons souvent, vêtue d'éclat dans une Jérusalem magnifique, avec beaucoup de couleurs, d'or, mais la gloire de Dieu, cette gloire-là, ne sera visible que dans le royaume. Et l'Apocalypse simplement va se borner à nous en dévoiler quelques horizons. Mais pour nous, ici sur la terre, le Jésus glorifié, c'est Jésus sur la croix. Et c'est un scandale, dira Paul. Chers frères et sœurs, dans le texte que j'ai lu, j'ai traduit intentionnellement « non-voyant de naissance » au lieu d'aveugle-né. Parce que tout le chapitre 8 et le chapitre 9 tournent autour de ce verbe « voir » ou « ne pas voir ». Entre ceux qui sont aveugles et néanmoins voient, entre ceux qui voient mais qui, dans le fond, sont aveugles, et les propos de Jésus visent aussi les disciples, donc nous aussi. Les disciples, comme la majeure partie des gens de leur époque, de leur temps, ne voient dans cet homme aveugle de naissance, ne voient qu'une question, un débat théologique, un débat moral, une hypothèse de travail. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né ainsi, lui ou ses parents? Le non-voyant, sa détresse physique et morale, sa souffrance, la malédiction qui pèse sur lui, n'est pas vue. Tout cela n'est pour eux qu'un problème. Les clairvoyants, peut-être nous aussi, ne voient souvent plus les hommes qu'au travers de leurs handicaps et de leurs défauts, qu'au travers de ce qu'ils sont vraiment. Ces gens-là ne sont devenus, pour les pharisiens, y compris les disciples, que des sujets de conversation, des thèmes de colloque, des problèmes abstraits. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne sont que des numéros, des sujets de thèse ou de colloque universitaire. Ils ne voient plus dans les personnes que des sujets de thèse avec des questions et des réponses péremptoires. Alors, qui a péché? Puisqu'à l'évidence, depuis la nuit des temps, la maladie ne peut être que la conséquence du péché. Commis forcément par quelqu'un, forcément grave. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né non-voyant? Est-ce si différent de ce que souvent nous pensons? Combien de fois n'ai-je entendu cette phrase « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» Bien entendu, c'est le sempiternel problème de l'origine du mal qui est posé, et surtout de sa cause, que l'on situe toujours derrière nous, dans le passé, dans l'hérédité, dans les gènes, au risque d'avoir un torticolis à force de ne voir que le passé. Il y a des drames, il y a la maladie, il faut donc qu'il y ait un coupable. Et surtout, il faut le trouver rapidement. Ainsi, à défaut d'autre chose, on comprendra mieux, et puis ce sera la faute de Dieu. Ça ne changera rien, mais on comprendra. Ou du moins, nous croirons avoir compris. Alors, qui a péché? Oh, la théologie habituelle répond Adam et Ève. La psychanalyse répond à peu près la même chose, sauf qu'elle change les prénoms et l'âge. Mais la psychanalyse ira aussi chercher dans l'histoire, dans le passé, raconter par le patient toute la responsabilité dans son histoire, et le plus souvent, bien sûr, dans ses relations entre parents et enfants. Le marxisme, lui, répondra à la société capitaliste, les oppressions et les injustices qu'elle entraîne. Ainsi, il nous faut toujours trouver un bouc émissaire, une cause bien logée, bien située dans le passé. Mais ces réponses-là ne sont que des réponses de bonne conscience, des réponses tranquillisantes, après lesquelles on part rassuré. Alors, on conseille aux uns une cure de psychanalyse sans fin, des psychotropes pour calmer les angoisses, de bien voter lors des élections, et le troisième, pérore et philosophe contre Adam et le péché, ainsi tout est bien dans le meilleur des mondes possibles et tout le monde est tranquille. On peut passer son chemin. Quoique, pour se donner bonne conscience, on va tout de même donner une piécette pour l'aveugle ou faire un don à l'asile des aveugles à Lausanne. Mais en réalité, dans les faits, nous sommes déjà loin. Nous avons passé notre chemin. Car la réalité de notre texte de ce jour, c'est que les protagonistes, disciples compris, n'ont pas vraiment vu cet homme. Or, c'est à ce genre de réponse d'esquive qu'il s'attendait sans doute de la part de Jésus. Sauf que Jésus, lui, a vu. Et ce qui compte pour lui, c'est l'avenir. Parce qu'il a vraiment vu l'homme qui était devant lui. Et sa réponse aux disciples jaillit. Et c'est une réponse claire que nous ne devrions jamais oublier. Il ne fait pas une thèse de doctorat. Il dit, ce n'est pas sa faute, ni celle de ses parents, ni celle de ses grands-parents, ni celle d'Adam et Ève. Jésus dénonce toutes ces culpabilités antérieures qui nous justifient parfois à si bon compte. Il n'accuse pas les autres, les ancêtres, ceux qui ont bon dos, et qui pourrait devenir un bouc émissaire. De plus, il n'accuse pas l'aveugle lui-même. Il sait qu'il y a ici-bas des misères, des morts, des blessures, des injustices, sans qu'il n'existe nécessairement de coupables identifiables. On le voit, la réponse de Jésus nous fait opérer un demi-tour magistral. Pour que nous regardions devant. C'est pour que les œuvres de Dieu apparaissent en lui. Parole à demi énigmatique seulement quand on se souvient que quelques instants plus tard, Jésus va faire sa propre médecine, au reste d'un taux d'hygiène assez modeste, et va guérir cet homme. La cause passée de la maladie pour lui n'a aucune importance, sinon pour les théologiens ayant mal de problèmes inutiles à se poser. Pour lui, tout devient clair. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire pour cet homme. Ce qui compte ici, c'est ce que nous allons faire. Ce que moi, je vais faire pour cet homme. Ce qui compte, c'est l'avenir. C'est de savoir si, oui ou non, nous allons cesser de le regarder comme un sujet de thèse ou un problème à résoudre, mais comme quelqu'un qui a vraiment besoin d'être reconnu. Lorsqu'on est poussé et que l'on tombe à l'eau, on se fout pas mal de savoir le nom de la personne qui nous a mis dans une telle situation. Parce que l'important, c'est que quelqu'un nous sauve, c'est que quelqu'un nous sorte de l'eau. Et le miracle est là. Le miracle est là dans sa capacité à voir l'autre dans ce qu'il est et dans ses besoins. Ce miracle de ce non-voyant raconté par Jean est là pour nous dire que nous pouvons faire la même chose. Que nous pouvons nous aussi apprendre à regarder autrement. Si nous pouvons faire quelque chose, et si nous allons avoir le courage de le faire, dans la mesure où nous saurons voir ce qui nous entoure au lieu de rabâcher un passé stérile et dépassé, dans la mesure où nous retrousserons nos manches afin d'essayer de faire quelque chose pour manifester les œuvres de Dieu aujourd'hui. Alors nous serons à notre tour capables de faire le même miracle que Jésus parce que nous aurons vu et nous aurons agi. Et c'est à cela que Jean nous invite, c'est-à-dire à faire comme Jésus, renouveler le miracle, à voir l'autre, les aveugles, les méprisés, les marginaux, ceux qui sont dans la souffrance et que nous ne voyons pas, à les aider et non pas à épiloguer pour savoir pourquoi ils sont malheureux, si c'est leur faute ou pas, parce que ce sont des débats stériles que Jésus refuse. Et ce qu'il nous invite, c'est à renouveler le miracle de nos yeux qui savent voir la détresse de ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas forcément des aveugles ou des malvoyants. La suite du récit montrera que le miracle culmine au moment où, après avoir été malmené et rejeté par les pharisiens, l'aveugle guéri accède à la foi. Il est guéri avant d'accéder à la foi parce que Jésus l'a vu vraiment. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et puis Jésus rajoute, et en fait, il donne sens à son action en disant « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient là avec lui entendirent ces paroles et dirent « Mais nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous seriez sans péché. » Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons, ainsi donc votre péché demeure. » Chers amis, le miracle aurait été bien plus grand encore si tous ceux qui prétendaient voir avaient compris ce jour-là pour voir autrement. Parce que la porte d'entrée de la foi, c'est notre cécité reconnue. Bien entendu, ce récit nous interroge, car non seulement nous sommes souvent des gens qui, au lieu d'agir, préférons agiter les problèmes. Alors que nous dit Jésus à travers la guérison de ce malvoyant de naissance. Lorsque Jésus dit au début de notre récit, « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et pourquoi le dit-il? Parce qu'il veut nous rendre attentifs avec ce récit de la guérison, parce qu'il nous demande et nous encourage à changer notre regard, à accepter à notre tour de voir comme lui a vu, parce que les enjeux sont importants. Parce qu'aujourd'hui, la présence au monde du Christ, elle passe par notre témoignage, notre mission de chrétien. La présence du Christ au monde ne s'est pas arrêtée à l'ascension lorsqu'il est monté au ciel. Parce que Jésus nous a confié de porter sa lumière. Aussi longtemps que l'Église, que les chrétiens, que notre paroisse, que nos communautés porteront la lumière du Christ, nous serons la présence du Christ, lumière du monde. Aussi longtemps que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Les chrétiens et les églises, quelles qu'elles soient, ne sont pas la lumière du monde. Et les institutions chrétiennes non plus, ce que malheureusement certaines aimeraient être. Non, c'est lui et lui seul. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui croiront que Jésus est mort et ressuscité pour eux, le Christ sera sur cette terre. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors ce matin, l'apôtre Jean nous invite à aller nous laver à Siloé, de laver nos yeux et nos cœurs de tout ce qui les rend aveugles, et revenons auprès du Christ pour nous prosterner et lui dire « Seigneur, je crois. Amen. »